Walter Scott, Quentin Durward. Chapitre 24. Devant Liège. Au bout de quelques jours, Louis apprit avec un sourire de vengeance satisfaite que son favori et conseiller, le cardinal Labalue, gémissait dans une cage de fer, disposée de telle sorte qu'il n'y pouvait reposer dans aucune posture, sinon couché. Disons-le en passant, il occupa cette cage pendant près de 12 ans, sans que son maître prît pitié de lui. Les troupes auxiliaires dont le duc avait fixé la nature et le nombre étaient enfin arrivées. Louis prenait courage à l'idée que si elle n'était pas de force à tenir tête à la puissante armée du duc de Bourgogne, elle suffirait du moins à préserver sa personne de tout danger. Il se voyait de plus libre de reprendre, en temps opportun, ses projets de mariage entre le duc d'Orléans et la princesse Jeanne. S'il sentait combien il était indigne de lui de servir avec ses plus nobles pairs sous la bannière de son vassal, et cela contre des gens dont il avait autrefois protégé la cause, il ne se laissait point embarrasser par ce concours de circonstances et songeait déjà à prendre sa revanche dans l'avenir. Car, disait-il à son fidèle Olivier, le hasard peut certainement gagner une partie, mais c'est la patience et la sagesse qui triomphent à la fin. Animé de ses sentiments, par un beau jour d'été, le roi Louis monta à cheval et franchit la porte gothique de Péronne. Il s'en allait rejoindre l'armée de Bourgogne qui se mettait en marche contre Liège. La plupart des dames de distinction qui étaient dans la place s'étaient installées, dans leurs plus brillants atours, sur les créneaux et les défenses de la porte, pour voir défiler les braves chevaliers qui s'en allaient en expédition. La comtesse de Crèvecœur y avait amené la comtesse Isabelle. Isabelle n'était venue qu'à contre-cœur et sur l'ordre formel du duc Charles. Celle qui devait remettre au vainqueur la palme de la victoire était tenue de se montrer aux chevaliers qui allaient entrer dans la lice. Les archers de la garde, choisis comme à plaisir parmi la fleur de la nation écossaise, se faisaient applaudir de toutes les dames par la galanterie et la splendeur de leurs costumes. Et parmi ces étrangers, il y en eut un qui osa agir avec la comtesse Isabelle comme avec une personne que l'on connaît de longue date, ce que ne s'étaient pas permis les plus nobles entre les plus nobles Français. Cet audacieux, c'était Quentin Durward. Lorsqu'il passa devant les dames à son rang, il présenta à la comtesse, à la pointe de sa lance, la lettre de sa tante. « Sur mon honneur !» s'écria le comte de Crèvecœur. « C'est le comble de l'insolence de la part d'un indigne aventurier. » « Vous faites bien du bruit pour rien, » murmura Isabelle, toute rouge de honte et aussi de ressentiment. « Ceci est une lettre de ma pauvre tante. Sa lettre est gaie, quoique sa situation doive être affreuse. » Faites-nous savoir ce que dit la femme du sanglier des Ardennes. » La comtesse Isabelle lut la lettre. Sa tante semblait décidée à faire contre mauvaise fortune bon visage, et à se consoler à la hâte du manque de décorum de son mariage par le bonheur d'avoir épousé l'un des hommes les plus braves du siècle, qui venait de conquérir un titre de prince par sa valeur. Elle suppliait sa nièce de ne pas juger son Guillaume par ouï-dire, mais d'attendre qu'elle le connût personnellement. Il avait des défauts peut-être, mais c'étaient les défauts des personnes qu'elle avait toujours vénérées. Guillaume était peut-être un peu adonné au vin, mais son grand-père à elle, le seigneur Godefroy, l'avait été aussi dans son temps. Peut-être était-il un peu vif et un peu sanguinaire, mais tel avait été son frère Reynold, de bienheureuse mémoire. Il avait le parler brusque, comme tous les Allemands. Il était un peu entêté et péremptoire. Mais est-ce que tous les hommes n'aiment pas à être les maîtres ? Pour conclure, dame Ameline espérait qu'Isabelle, en employant le porteur du message, trouverait moyen de se soustraire à la tyrannie du duc de Bourgogne. Alors elle viendrait à Liège, à la cour de son affectionnée parente. Les petites difficultés qu'il pouvait y avoir entre elles, au sujet de la succession du comte de Croix, serait tout aplani par le mariage d'Isabelle avec le comte Eberson. Il était peut-être un peu jeune pour elle, mais la bonne tante pouvait lui affirmer, au nom de son expérience personnelle, que ces petites différences d'âge n'empêchaient pas les gens d'être heureux en ménage. Mais Isabelle, en lisant à ses amis la lettre de sa tante, ne jugea pas nécessaire de leur donner connaissance du post-scriptum. La dame Ameline, dans ce post-scriptum, parlait à sa nièce de ses occupations. Elle venait de mettre de côté un surcot qu'elle brodait pour son mari, avec les armes de la marque et celles de croix accolées, parce que Guillaume avait décidé, pour des motifs politiques, de porter d'autres armes à la prochaine bataille. Il prendrait les armes d'Orléans avec la barre de Bâtardise, autrement dit celle de Dunois. Il y avait aussi un petit bout de papier avec quelques mots d'une autre écriture. Ce petit billet que la comtesse ne jugea pas nécessaire non plus de lire tout haut disait ceci: Si vous n'entendez pas parler de moi bientôt par la bouche de la renommée, dites-vous que je suis mort, mais non pas indigne. Une pensée, repoussée jusque-là comme à peine croyable, se fit jour dans l'âme de la comtesse Isabelle. Comme l'esprit des femmes n'est jamais à court de moyens, elle prit si bien ses mesures que Quentin d'Hurouard reçut d'une main inconnue la lettre de Dame Ameline, avec trois croix devant le post-scriptum et les lignes suivantes. Celui qui ne craindrait pas les armes d'Orléans brodées sur la poitrine de celui qui a le droit de les porter n'est pas un homme à les redouter, sur la poitrine d'un tyran et d'un assassin. Ces quelques mots enflammèrent l'ardeur belliqueuse de Quentin d'Hurouard, sans compter qu'ils lui donnaient la clé d'un mystère et le moyen de reconnaître dans la mêlée celui dont la mort ouvrait le champ à ses espérances. Il résolut prudemment de garder son secret pour lui seul. Mais il comprit la nécessité d'agir autrement à propos du renseignement fourni par Herdain, car il fallait que les assiégeants furent mis en garde contre la sortie combinée par de la marque, sous peine d'une défaite complète. Après avoir mûrement réfléchi, il décida de communiquer en personne le renseignement et aux princes réunis. Il se dit probablement que s'il communiquait le secret à Louis seulement, ce monarque, dont la probité était plus que douteuse, serait peut-être tenté de donner les mains à un plan si bien conçu, au lieu d'y mettre obstacle. Il se décida donc à attendre que les deux alliés fussent ensemble. Mais comme ils ne paraissaient pas plus désireux l'un que l'autre de se trouver face à face, l'occasion pouvait se faire attendre longtemps. Cependant, les troupes continuaient à marcher, et l'on entra bientôt sur les territoires de Liège. Là, les soldats bourguignons, ceux du moins qui faisaient partie des bandes que l'on appelait les écorcheurs, par leur conduite envers les habitants, sous prétexte de venger la mort de l'évêque, se montrèrent parfaitement dignes de leur nom. Leur violence faisait un tort considérable à la cause de Charles. Les habitants, poussés à bout, prirent les armes pour se défendre, harcelèrent sa marche, coupèrent les petits corps isolés, et, se rejetant sur la ville, accrurent le nombre des désespérés qui avaient résolu de la défendre. Les Français, en petit nombre, tous soldats d'élite, selon les ordres du roi, se tenaient serrés autour de leur étendard respectif et observaient la plus stricte discipline. Ce contraste accrut les soupçons de Charles. Il ne pouvait s'empêcher de remarquer que les soldats de Louis se conduisaient plutôt comme des amis des Liégeois que comme des alliés des Bourguignons. Enfin, sans avoir rencontré nulle part une résistance sérieuse, l'armée arriva dans la riche vallée de la Meuse, devant la grande et populeuse cité de Liège. Ils trouvèrent le château de Schoenwald complètement détruit, et apprirent que Guillaume de la Marck, qui n'avait d'autre mérite que d'être bon soldat, avait concentré toutes ses forces dans la ville, décidé à éviter le choc de la chevalerie française en rase campagne. Mais les assiégeants comprirent bien vite quel danger l'on court à attaquer une grande ville, même ouverte, quand les habitants sont décidés à opposer une résistance désespérée. Quelques hommes de l'avant-garde bourguignonne, se figurant que, vu l'état des défenses, ils n'avaient qu'à entrer dans Liège tout à leur aise, pénétrèrent dans un des faubourgs en criant « Bourgogne, Bourgogne, tue, tue, tout est à nous. Souvenez-vous de Louis de Bourbon. » Mais pendant qu'ils s'avançaient en désordre et se dispersaient pour piller, un gros d'habitants sortirent tout à coup de la ville, tombèrent furieusement sur eux et en firent un grand massacre. La marque profita même des brèches des remparts pour faire filer des troupes de différents côtés et pour prendre les assaillants en tête, en queue, en flanc. Étonné de cette résistance inattendue et de cet élan furieux, les bourguignons avaient beaucoup de peine à se tenir sur la défensive. La nuit qui commençait à tomber ajouta à leur confusion. À cette nouvelle, le duc Charles entra en fureur. Sa rage s'accrut encore quand le roi Louis leur offrit d'envoyer les hommes d'armes de France dans les faubourgs pour dégager l'avant-garde. Rejetant cette offre d'un ton bref, il allait se mettre à la tête de ses gardes pour dégager ceux qui s'étaient si maladroitement aventurés. Mais d'Humbercourt et Crèvecœur le prièrent de leur abandonner ce soin. Ils réussirent dans leur entreprise. Seulement les Liégeois avaient fait des prisonniers, et 800 morts étaient restés sur le carreau, parmi lesquels environ 100 hommes d'armes. La plupart des prisonniers furent repris par d'Humbercourt, qui concerta aussitôt ses mesures pour occuper le faubourg et placer des postes devant la ville. Quand il revint, il eut à accomplir une tâche singulièrement difficile, rendue plus désagréable encore par les reproches de son maître. Le duc Charles ne lui tenait aucun compte du devoir si difficile et si urgent dont il venait de s'acquitter. Aussi le brave soldat commençait-il à perdre patience. « Je suis parti d'ici, dit-il, pour rétablir un semblant d'ordre dans l'avant-garde, laissant le gros de l'armée sous le commandement de votre grâce. Et à mon retour, je ne distingue plus le front du flanc, ni le flanc de l'arrière-garde, tant grande est la confusion. » Cependant, le roi jugea convenable de se rendre sans autre cérémonie au quartier général du duc de Bourgogne pour savoir quel était l'ordre du jour et quelle coopération l'on attendait de lui. Sa présence fit que l'on tint un conseil de guerre, ce à quoi le duc de Bourgogne n'aurait pas songé sans cela. Ce fut alors que Quentin d'Urwarde demanda instamment à être introduit, alléguant qu'il avait à faire au prince une importante communication. Il l'obtint sans difficulté, et grand fut l'étonnement de Louis quand il l'entendit nettement, et avec beaucoup de calme, révéler le plan conçu par Guillaume de la Marque d'assaillir le camp des assiégeants avec le costume et sous les bannières des Français. Louis aurait probablement préféré recevoir cette communication en particulier. Mais comme toute l'histoire avait été racontée devant le duc de Bourgogne, il se contenta de dire que, vrai ou faux, ce rapport était pour eux de la dernière importance. « Pas du tout, dit négligemment le duc. Si l'on avait projeté ce que dit ce jeune homme, ce n'est pas par un archer de la garde écossaise que je l'aurais appris. » Cependant, la nouvelle peut être vraie, répondit Louis. Je vous prie donc, beaux cousins, et je prie vos capitaines, de se rappeler que pour prévenir les fâcheuses conséquences d'une attaque de ce genre, si elle devait avoir lieu à l'improviste, je recommanderais à mes soldats de porter une écharpe blanche par-dessus leur armure. Du noix. Veillez à ce que cet ordre soit exécuté à l'instant, c'est-à-dire si notre frère et général n'y voit pas d'inconvénient. « Je n'y vois aucun inconvénient, » répondit le duc. « Si les chevaliers de France consistent à courir le risque de porter à l'avenir le sobriquet de chevalier du cotillon. » Sur ces mots, Louis prit congé du duc. De retour dans son camp, il tint conférence avec Olivier le Dain quand il fut de retour à son quartier général. « Cet Écossais, dit-il, est un tel mélange d'adresse et de simplicité que je ne sais qu'en penser. » Pasque Dieu, quelle impardonnable sottise de révéler l'honnête invention de la marque devant le duc. Crèvecœur et tous les autres, au lieu de me le venir conter à l'oreille, me laissant au moins le choix de déjouer le plan ou de le faire aboutir. Tout est pour le mieux, sire, répondit Olivier. Parmi ceux qui vous accompagnent en ce moment, il y en a beaucoup qui se feraient scrupule d'attaquer le duc de Bourgogne sans qu'il ait été légalement défié, ou de s'allier avec Guillaume de la Marque. « Tu as raison, Olivier. Il y a de ces sots-là de par le monde. Et le temps nous manque pour triompher de leurs scrupules, en faisant appel à leur intérêt, bien entendu. Il faut donc, Olivier, que nous soyons les loyaux et fidèles alliés de Bourgogne, au moins pour cette nuit. Avec le temps, nous pourrons prendre notre revanche. Va, que personne ne se désarme, et que l'on tire sur ceux qui crieront France et Saint-Denis, aussi gaillardement que s'ils criaient Enfer et Satan. » Je m'en vais moi-même dormir tout armé. que Crawford place Quentin Durward à l'extrémité de la ligne des sentinelles la plus rapprochée de la ville, qu'il est même le premier bénéfice de la sortie qu'il nous a annoncée. Si sa chance le tire de là-haut, tant mieux pour lui. Vois tout cela, Olivier, et bonne nuit. Notre-Dame de Cléry, et vous, Monseigneur Saint-Martin de Tours, protégez mon sommeil.